Étranger, ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts? Donnons tout de suite la parole à notre invité.
Parfois même on est pris dans l'idée de « oh que c'est joli ce que je viens d'écrire », ce qui est la phrase la plus terrible parce qu'il n'est pas une fois où une des phrases qui m'a fait dire « oh que c'est joli ce que je viens d'écrire » n'a été rayée par mon éditrice en disant « trop facile ».
Bonjour Philippe Grimbert.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous retrouver ici au salon Livre en Vigne, au cœur du vignoble bourguignon.
D'ailleurs, nous sommes face aux vignes.
Oui, il y a pire comme endroit pour faire un entretien. Alors, pour commencer, en fait, j'ai suivi un peu l'actualité. Vous savez, je suis allé voir le film Dune. Alors, au début, il y a une citation de Frank Herbert qui dit les choses suivantes. Les rêves sont des messages venus des profondeurs. Alors, ça a résonné dans ma tête parce que je savais que j'allais vous voir et je me suis dit, tiens, les rêves sont des messages venus des profondeurs. Pour un psychanalyste et un romancier, c'est peut-être pas mal de commencer par là. Qu'est-ce que les rêves nourrissent, justement, votre écriture?
Alors, c'est vrai que c'est une très bonne question à poser à un psychanalyste, puisque vous savez que Freud appelait les rêves la voie royale d'accès à l'inconscient, les profondeurs. C'est bien ça, c'est l'inconscient. Et les rêves nous délivrent, d'une certaine façon, des messages qui viennent, non pas tout droit, mais qui viennent de notre inconscient avec quelques détours décoratifs, imaginaires, scénaristiques, je dirais. Mais c'est aussi un très beau matériel pour l'écriture. Moi, je sais que presque dans chacun de mes livres, il y a au moins un récit de rêve, parce que c'est souvent de la poésie pure, parfois de l'horreur pure aussi. Enfin, il y a du pur dans le rêve, malgré l'aspect tortueux de la chose et la difficulté souvent à l'interpréter. Mais c'est l'expression d'un désir profond qui nous est à nous-mêmes parfois inconnu. Alors ça nourrit l'imaginaire de l'auteur, ça nourrit la pratique du psychanalyste, et puis ça nourrit évidemment l'œil de la caméra du cinéaste.
Quand vous disiez pur, c'est le côté sans filtre un peu, c'est le côté qui
c'est ça,
tout
parce
peut s'exprimer.
Il y a quelque chose d'incroyable, en particulier le dialogue avec les morts, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'incroyablement simple dans les rêves qui nous fait rencontrer nos disparus, nos chers disparus, et reprendre le dialogue avec eux d'une façon tout à fait naturelle et pure, sans que vienne s'intercaler l'horrible réalité de « mais ils sont morts ». C'est quelque chose qui ne nous vient pas à l'esprit au moment du rêve. C'est au réveil qu'on se dit « comment est-ce que j'ai pu imaginer ça ?» Dans la cuisine, parler tranquillement avec mon père, qui est mort il y a 20 ans. 20 ans plus tard, dans mon inconscient, quelque chose est là, toujours aussi vif, et qui me fait complètement adhérer à ma vision.
Et il y a un entraînement pour se souvenir de ses rêves, parce que moi, souvent, j'ai des amis qui me disent « tiens, t'es arrivé de quoi ?» C'est le genre de questions qu'on peut se poser. Et alors, je suis en général assez ennuyé. Je sais pas quoi leur dire.
Oui,
je vous dis, j'ai oublié.
C'est difficile, oui, mais vous savez, c'est ce que vous me dites là. Beaucoup de mes analysants, comme nous disons pour parler de nos patients, nous le disent. « Ah, j'ai rêvé de quelque chose cette nuit, mais il ne m'en reste rien. » Mais ce qui est très troublant, c'est qu'ils disent « il ne m'en reste rien. » Enfin quoi, une bribe. Alors cette bribe, c'est comme un bout de fil d'une tapisserie à détricoter. Quand on commence à raconter le bout de fil, souvent il y a l'exemple « ah oui, tiens, mais oui ». Et peu à peu, les choses reviennent. Si vous poser la question d'une technique à avoir pour interpréter et se souvenir de ses rêves, c'est celle-là que je donnerais. Ou alors vraiment un peu scolaire, c'est-à-dire quand on se réveille, de noter son rêve. Enfin, franchement, c'est un peu aride et je préfère que les choses soient vives. Il y a quelque chose qui s'appelle le refoulement, c'est un mécanisme psychique normal qui nous arrive souvent à propos de nos rêves, parce que nos rêves sont l'expression, comme je disais tout à l'heure, d'un contenu inconscient et probablement inhibé par la conscience. Donc quand il cherche à s'exprimer, et quand on cherche à s'en souvenir, il y a le refoulement qui s'en mêle sous la forme d'un oubli. C'est même très frappant, parce qu'on peut avoir l'image précise de ce qu'est le refoulement quand on a l'image du rêve qui peu à peu s'efface au moment où on essaye d'y penser. On a l'impression d'une image qui s'enroule, et qui s'enroule sur elle-même et qui disparaît. C'est vraiment le refoulement à l'œuvre. On a le souvenir du rêve et il disparaît comme ça tout de suite.
Ah oui, alors ça m'arrive très souvent, effectivement. Voilà. Je dois avoir un refoulement très puissant.
on y est tous sujets, ne vous inquiétez pas.
Alors, dans le dernier livre, Les morts ne nous aiment plus, est-ce que justement il est question de rêve? Alors, je sais qu'il est question évidemment de la mort et puis de faire revivre en fait quelqu'un de manière un peu virtuelle.
Oui, ben, c'est exactement ce que le rêve essaye de faire. Au fond, quand nous discutons avec nos disparus, c'est le désir de faire revivre ceux qui ne sont plus là. Et le rêve y réussit parfaitement. Mais le héros de mon roman, Paul, lui, est un spécialiste comme moi, très proche de moi, de l'inconscient, de la question du deuil. Il travaille beaucoup là-dessus. Il fait des conférences sur le deuil. Sauf qu'à un moment donné, ce deuil va le frapper de plein fouet, celui de son épouse bien-aimée, de son Eurydice, qui disparaît. Et voilà qu'il se trouve dans la position de ce que Freud appelle un deuil pathologique, c'est-à-dire qu'il ne s'en sort pas. Il ne s'en sort pas. On sait très bien qu'en général, et c'est un phénomène naturel, au bout de quelques mois, un an, la douleur s'atténue, même si évidemment elle ne disparaît pas. Lui, non. Elle reste toujours aussi vive, au point même qu'il pense qu'il la cultive, sa douleur. C'est-à-dire qu'atténuer la douleur, ce serait faire mourir sa bien-aimée une deuxième fois. Comme quand on dit. Oh, tu vas te consoler. La consolation peut avoir quelque chose d'insupportable. Comment ça? Je vais me consoler de la disparition de quelqu'un que j'ai aimé? Je n'ai pas envie de me consoler. Sa je veux douleur, rester l'inconsolable. C'est une façon de laisser vivant et de laisser vivante la douleur de sa perte. Donc, c'est là-dedans qu'il est pris, jusqu'au moment où ça devient tellement douloureux qu'il est prêt à céder à toutes les chimères. Et voilà qu'il rencontre à ce moment-là un personnage étrange qui commercialise une invention qui permet de faire, j'en dirai pas trop parce qu'il y a quand même un suspense, j'espère qu'il y a un côté suspense et thriller dans mon livre, mais qui lui fait miroiter le fait qu'il a inventé un procédé qui permet de retrouver ses disparus, de discuter à nouveau avec eux, et pas seulement d'une façon comme ça complètement écrite d'avance, mais avec une certaine intelligence artificielle de ces morts, ces disparus, qui peuvent à nouveau discuter avec nous, avoir des réactions inattendues, nous parler très spontanément, avec une sorte de libre arbitre. Et bien sûr, là, dans son deuil pathologique, il va céder à ce mirage et il va se lancer dans cette aventure folle qui le mènera assez loin.
Nous invitons les gens qui nous écoutent à aller découvrir la suite dans le livre.
J'espère leur en avoir donné envie. Parce oui, qu'il y a en effet, j'espère, une suspense, parce qu'on se demande vraiment comment va se terminer cette histoire. Et j'aime assez, on peut parler de son propre livre et dire j'aime assez, l'idée que la fin nous ouvre sur la nécessité de la création.
Alors ce dernier livre sort chez Grasset, l'éditeur Grasset. Vous êtes assez fidèle à cet éditeur depuis la petite robe de Paul,
oui, écoutez,
Un secret qui a
oui.
un énorme succès, comme on le sait, La mauvaise rencontre, Un garçon singulier, Nom de Dieu, enfin tout.
Oui, bah, tous les livres ont été publiés chez Grasset, sauf Rudik, parce que c'était dans une collection chez Plon, mais tout simplement parce que Grasset, Martine Boutan, mon éditrice chez Grasset, a été la première à me répondre quand j'ai envoyé, vraiment, c'est pas une légende, mon manuscrit par la poste, tout simemplement. Beaucoup de gens nous disent j'en ai envoyé des dizaines et personne n'a jamais répondu. Moi, ça m'est arrivé aussi, sauf que là, quelqu'un a répondu. Et depuis, le travail que j'ai fait, c'est aussi parce qu'en rencontrant une maison d'édition, j'ai aussi rencontré une éditrice extrêmement rigoureuse et exigeante, cruelle. C'est-à-dire que j'ai pu trouver cruelle quand je voyais qu'elle me rendait mes manuscrits avec un post-it à chaque page.
Ah oui, voilà. Parlez-nous un peu de cette cruauté.
Ça, c'est formidable. Oui, on trouve ça cruel, évidemment. Comme quand le professeur de français rayait en rouge ou mal dit et est-ce bien nécessaire ou mal exprimé. Il y a quelque chose comme ça dans le travail de l'éditeur. On retrouve son professeur de français et ses remarques au crayon rouge. Là, c'est beaucoup plus bienveillant, mais quand même, il y a ce côté, un véritable éditeur littéraire, ce qui est le cas avec mon éditrice, est capable de vous dire, tu as employé trois fois la même tournure de phrase dans les deux pages. Et nous, on ne le voit pas, on est complètement pris dans le récit, parfois même on est pris dans l'idée de « oh, que c'est joli ce que je viens d'écrire », ce qui est la phrase la plus terrible, parce qu'il n'est pas une fois où une des phrases qui m'a fait dire « Oh, que c'est joli ce que je viens d'écrire » n'a été rayée par mon éditrice en disant « Trop facile ». C'est étonnant, hein ? C'est étonnant. Et ça me fait penser à...
Ah oui, pour vous, c'est une sorte de boussole. Si vous pensez avoir écrit quelque chose de joli, c'est...
c'est que c'est pas bien. C'est que c'est pas bien. Quand je dis quelque chose de joli, c'est une phrase, vous avez une tournure de phrase. Je me souviens de phrases comme ça où je disais « Ah, ça, c'est beau ». Et immanquablement, elle me proposait de la supprimer. Et ça me fait penser à une phrase qu'on attribue à Flaubert, J'espère que c'est vrai. Dans ses conseils, il y a un jeune écrivain qui disait « Renoncez à ce à quoi vous tenez le plus ». C'est joli quand même. Ah oui. C'est même paradoxal. On dit « Comment ça ?» Au contraire, je l'ai ressenti très vivement quand, dans une page, je me dis « Ce à quoi je tiens le plus », c'est cette phrase-là, et qu'on me dit « Mais non ».
Arrête, c'est intéressant parce que ça va un peu à rebours de ce qu'on nous dit toujours, sois toi-même, je sais pas quoi, de discours, vous savez, blablabla.
L'autofiction, déballe tes tripes.
Oui, voilà. Non, donne ta vérité, je sais pas quoi.
C'est renoncer à ce à quoi on tient le plus, c'est souvent renoncer à son narcissisme absolu, à ses coquetteries de langage, à ses tournures de phrases alambiquées dont on se dit qu'elles sont très savantes. Je crois que c'est bien d'y renoncer. En tout cas, moi, j'ai appris ça. Avant d'écrire vraiment, j'ai toujours écrit, mais avant d'être publiable et après avoir fait des années d'analyse, ça compte quand même, pour devenir psychanalyste, comme vous le savez sans doute, on s'allonge quelques siècles sur un divan, pour y voir quand même assez clair en soi avant de s'occuper de l'inconscient des autres. Et avant l'analyse, j'avais une tendance à écrire complètement envahie par les auteurs que j'écrivais. J'avais fait une licence de lettres en même temps que psycho, et c'est une licence de lettres modernes où on était complètement envahi par le nouveau roman. Alors c'était Nathalie Sarraute, c'était Claude Simon, Michel Butor, et je voulais écrire comme eux. C'est que j'étais complètement empêtré par les identifications que j'avais avec l'écriture postmoderne. Voilà. Et l'analyse, d'une certaine façon, qui vous fait abandonner pas mal de défroques identificatoires, m'a amené à une écriture beaucoup plus limpide et claire. J'ai renoncé en effet à ce à quoi je tenais le plus, c'est à avoir l'air très savant, incompréhensible de préférence et donc très intelligent.
Ah oui, alors ça c'est un peu l'écriture académique. Moi j'ai lu beaucoup de...
Oui, c'est ça. Ou alors les hyper modernes qui déconstruisent tellement la phrase que là on ne comprend plus rien, mais c'est tellement extraordinaire quoi, ce qu'il a fait subir au langage. Oui, il y en a qui l'ont réussi, mais très peu.
Flaubert, lettre à Louise Collet. Mercredi dernier, j'ai été obligé de me lever pour aller chercher mon mouchoir de poche. Les larmes me coulaient sur la figure. Je m'étais attendri moi-même en écrivant, je jouissais délicieusement, et de l'émotion de mon idée, et de la phrase qui la rendait, et de la satisfaction de l'avoir trouvée. Du moins, je crois qu'il y avait de tout cela dans cette émotion, où les nerfs, après tout, avaient plus de place que le reste. 24 avril 1850. Maintenant, par combien d'études il faut passer pour se dégager des livres? Et qu'il faut en lire? Il faut boire des océans et les repisser. 8 mai 1852. Ce qui me semble, à moi, le plus haut dans l'art et le plus difficile, ce n'est ni de faire rire, ni de faire pleurer, ni de vous mettre en rute ou en fureur, mais d'agir à la façon de la nature, c'est-à-dire de faire rêver. Aussi, les très belles œuvres ont ce caractère. Elles sont sereines d'aspect et incompréhensibles. Quant aux procédés, elles sont immobiles comme des falaises, houleuses comme l'océan, pleines de frondaisons, de verdure et de murmures comme des bois, tristes comme le désert, bleus comme le ciel. Homère, Rabelais, Michel-Ange, Shakespeare, Goethe m'apparaissent impitoyables. Cela est sans fond, infini, multiple. Par de petites ouvertures, on aperçoit des précipices. Il y a du noir en bas, du vertige. Et cependant, quelque chose de singulièrement doux plane sur l'ensemble. C'est l'éclat de la lumière, le sourire du soleil. Et c'est calme et c'est fort. 26 août 1853.
Alors, il y a un journaliste de l'Obs, j'ai pas noté son nom, mais qui disait que on pouvait retrouver chez vous, alors l'allure compassée, je ne sais pas si c'est très sympa, ça, mais les nouvelles intimistes de Stefan Zweig. Stefan Zweig.
Il est même allé plus loin, il a dit à Stefan Zweig qui aurait lu Lacan.
Ah, c'est ça.
Oui, oui. C'est drôle. Alors, moi, je le prends en positif.
Hein. Bah, oui, non, moi aussi. Bah, c'est ça.
Je pourrais dire, il se fiche de moi. Mais non, Stefan Zweig, ça, évidemment, c'est un compliment. Oui. Mais qui aurait lu Lacan, je pense qu'il l'a dit gentiment. D'ailleurs, c'est vraiment pour dire que. Il y a cette référence à la psychanalyse, encore que Stefan Zweig s'est intéressé à Freud, hein. Il a écrit un magnifique livre sur Freud, La guérison par l'esprit, mais c'est pas faux, c'est-à-dire que ce sont évidemment mes sources d'inspiration. Lacan ne m'inspire pas dans l'écriture, mais en revanche, le travail sur le langage que Lacan a proposé, la façon de vraiment de s'intéresser à la racine même du langage, à ses trébuchements, à ce qui se dit sous ce qui est dit, c'est quelque chose qui m'influence forcément dans mon écriture.
Donc on garde ça. Parmi les autres grands auteurs du passé ou du présent qui seraient, dont vous avez envie de parler ou qui vous inspire d'une certaine manière.
Alors il y a ceux qui m'inspirent dans les contemporains, il y a ceux qui me nourrissent dans les classiques, c'est autre chose. C'est-à-dire que on sent bien que, qu'on le veuille ou non, quand on a lu Balzac, Flaubert, Stendhal, enfin tous les grands auteurs, il est évident que non seulement je n'ai pas envie d'écrire comme eux, et qu'écrire comme eux aujourd'hui, ce serait vraiment s'entourer de bandelettes et jouer à la momie, mais il y a forcément sur ce terreau-là quelque chose qui a poussé, j'espère, de nouveau. Par contre, dans les contemporains, il y a des choses, je veux dire, par exemple, je suis toujours très admiratif de la façon de Modiano de ne rien raconter dans un livre. C'est quelque chose d'ahurissant. Et de donner à chaque... Les noms propres chez Modiano, il y a une sorte de façon de savourer, de donner à chaque nom propre une consistance telle qui raconte à lui seul toute une histoire. Ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup aussi Georges Perec, enfin, sa façon de jouer avec ce prodige qui s'appelle La Disparition, où il réussit à écrire 300 pages sans la lettre E. C'est la folie complète, mais c'est très intéressant, non pas parce que c'est quasiment habitable, mais c'est formidable parce qu'on voit bien à quel point la disparition d'une lettre oblige le récit. C'est-à-dire que tout à coup, le récit prend une autre tournure parce qu'il manque une lettre. C'est la lettre qui commande. Et là, on retrouve Lacan. Lettre.
Est-ce que vous aimez vous donner vous-même des contraintes ou vous en faire fixer par quelqu'un d'autre quand vous écrivez, vous, vos romans? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin ou pas du tout?
Non, parce que c'est plutôt... Il y a quelque chose d'étonnant, c'est que... On connaît la comparaison avec la grossesse, c'est devenu un cliché, une tarte à la crème. Mais n'empêche que je réfléchis à un livre quand l'idée me vient et que je vois que c'est une idée de roman et pas une idée de nouvelle ou d'article. Quand une idée de roman vient, et déjà il faut du temps pour que je me dise tiens, ça tient la route, oui, on peut aller jusque-là, jusque-là. À ce moment-là, j'y pense tout le temps pendant, allez, on va dire 9 mois, c'est mieux, ça fait image, mais j'y pense tout le temps pendant des mois. Et avec peu à peu cette histoire qui se développe en moi, jusqu'au moment où elle est prête à sortir. Et là, je commence à écrire. Et mes romans, qui sont quand même des romans assez courts, sont tous écrits en deux, trois mois, parce que il n'y a plus qu'à écrire, c'est prêt. Mmh. Donc il n'y a pas de contrainte, sinon d'être disponible pendant 3 mois pour pouvoir écrire à tout moment de la journée quand on veut. C'est très difficile je profite des vacances, que quand je reçois des patients, c'est impossible de me lancer dans l'écriture et d'être dérangé, je l'emploie à dessein le mot, par la sonnerie d'un patient. Je vais finir par le détester. Il ne faut pas que j'écrive quand je reçois. Mais en revanche, les week-ends et les vacances, il faut que j'aie la possibilité d'écrire 1 heure ou 8 heures s'il le faut, mais que ce soit entièrement libre et pas limité.
Une immersion. Donc
c'est pas des contraintes. Justement, je ne suis pas quelqu'un qui se dit de 9h à 11h chaque matin, je me mets en bureau, j'écris. Pas du tout. J'écris quand c'est prêt. Et là, je ne m'arrête plus. Donc c'est ça. C'est plutôt une absence de contraintes. La contrainte, c'est la liberté absolue. Ceci dit, c'est la contrainte qui donne la liberté. Forcément, quand j'ai des contraintes, je relis sans arrêt, je fais attention à chaque phrase, la contrainte de l'orthographe, de la forme de la phrase, d'éviter les répétitions, ce qui est pour moi l'ennemi incroyable, parce que j'ai tendance à ça, je relis 3 fois, je ne vois pas qu'il y a le même mot à 2 lignes d'intervalle. Enfin, c'est un peu masochiste de raconter tout ça, mais c'est vrai que ça, il faut que je sois très vigilant à ça. Ouais. C'est vraiment des contraintes dans l'écriture. Et la musicalité de la phrase, j'y tiens beaucoup.
Merci beaucoup. Je vais vous rendre aux gens qui viennent là sur le salon pour vous rencontrer. Je voulais juste... Enfin, j'aime bien terminer par cette question. On a parlé des conseils de Flaubert, un jeune écrivain. Si quelqu'un vient vous voir pour vous demander, mais bon, moi, j'hésite à écrire, etc. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire comme ça, s'il n'y avait qu'un seul conseil?
Déjà, n'hésitez pas. Ça serait la première chose. N'hésitez pas. Mais c'est très important de laisser aux gens à la fois... L'espoir que leur histoire, par exemple, s'ils veulent parler de leur histoire, les gens disent j'ai envie de raconter mon histoire. Leur histoire aussi banale semble-t-elle, dès qu'elle est écrite, devient une histoire romanesque. Enfin, c'est l'écriture qui porte l'histoire de mes parents que j'ai raconté dans Un secret. Je la portais en moi depuis des années, des décennies même. Et c'était tout, c'était l'histoire de ma famille, il n'y avait pas de quoi. Il n'y a pas de quoi en faire un, je vais pas dire un plat, parce que si, il y a de quoi en faire un plat, mais il n'y a pas de quoi en faire un roman. Jusqu'au jour où je me suis dit, je vais quand même essayer de le raconter, et tout à coup, ça devient un roman tragique. Et c'est l'histoire de mes parents, pourtant que, elle était tragique, mais elle faisait tellement partie de mon histoire que en faire un livre ne m'était pas venu à l'esprit jusqu'à un moment précis de déclenchement. Donc je dirais d'abord de ne pas hésiter aux jeunes auteurs qui voudraient écrire, et puis de ne pas envisager des grands sujets, pas de grands sujets. Essayez d'écrire sur des petites choses, vous verrez que ça vous emmène tout de suite vers les grandes, mais pas commencer par l'inverse.
Très bon conseil. Je rappelle que vous publiez Les morts ne nous aiment plus chez Grasset, et je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.